Voyage autour du monde par Jacques Arago. Chapitre 1er. Toulon, les Baléares, Gibraltar. Toulon est une ville de guerre, forte et patriotique. On lit quelque chose de martial et d'indépendance sur cette population incandescente qui se rue avant le jour sur les quais et les marchés publics. L'idiome du peuple est nerveux, abrupt comme les montagnes qui emprisonnent la cité. Ses manières sont brutales comme le mistral qui ravage ses vignobles, et ses refrains favoris semblent un écho de ses rapides tourmentes qui, nées sur les côtes africaines, bouleversent son port et sa rade. Nos préparatifs de départ étant terminés, l'ordre d'appareiller retentit et nous voici, après un triste adieu à nos amis et à notre patrie, longeant le goulet et saluant, ainsi que le faisaient courtoisement les Anglais, quand leurs flottes insolentes venaient jeter un regard avide jusqu'au fond de la rade, le tombeau de l'amiral Latouche, dont l'Angleterre, plus encore que nous peut-être, se rappelle les beaux faits d'armes. Il y a dans chaque pays du respect pour toutes les gloires. Enfin, nous sommes en mer, dans ce criquet de plat à barbe des navigateurs, pour me servir des méprisantes expressions des ponantais façonnés au voyage de long cours. « Quelle mare fangeuse !» disent-ils encore, quand ils veulent blesser l'orgueil des Levantins. « On ne peut ici virer de bord sans avoir le beau pré sur la terre. » Les ponanteux ont tort. Si les lames de la Méditerranée se dessinent courtes et grêles en comparaison des houles creuses et larges de l'Atlantique et des autres océans, elles n'en sont que plus turbulentes et plus rageuses. Ce sont ces colères vives qui remuent jusqu'au fond des entrailles. C'est le bond rapide du chacal sur une proie facile. Les Alpes et les Pyrénées, se joignant par des lignes sous-marines en partant de Nice jusqu'au Cap Creus, sont sans doute la première cause de cette humeur querelleuse qui a brisé tant de navires et englouti tant de richesses. Une bien rude épreuve va mettre à nu le courage ribald de nos matelots, car la première nuit de notre départ fut marquée par une de ces tempêtes méditerranéennes où le tonnerre en éclats ne sautait sur aucun point de l'horizon, où le vent fait en quelques minutes le tour de la boussole et où toute l'habileté du pilote est nécessaire au salut du navire. Chacun fut fidèle à son poste et moi plus que tous. Le tangage et le roulis m'avaient si cruellement tiraillé que je m'étais laissé tomber dans le faux pont à côté de quelques malles et coffres non encore arrimés, jeté tantôt à bâbord, tantôt à tribord, maintenant au pied d'une caronade et en un clin d'œil enlevé de l'avant à l'arrière. Inquiet de mon sort, mon domestique me cherchait partout et ne me trouvait nulle part, car le lieu qu'on lui indiquait, où je venais d'être foulé sous les pieds, était celui que j'avais déserté par un soubresaut inattendu. Il me trouva enfin à l'entrée de la fosse au lion. « Et quoi, c'est vous ? » me dit-il d'un air piteux, car il souffrait aussi le pauvre homme. « Que faites-vous donc là, monsieur ? Vous allez être broyé sous les câbles. » Je répondis par un gémissement profond. « Debout, debout » continua-t-il. « La foudre vient de tomber à bord. Le navire est en feu. »« Tant mieux » répliquai-je. Je souffle, un choc violent nous sépara. Et le matin, lorsque le vent et la mer se furent calmés, il me retrouva meurtri et déchiré entre deux barils d'eau-de-vie où j'étais arrivé après 1000 évolutions et cascades auxquelles j'ai survécu comme par miracle. Oh, le mal de mer est sans contredit la plus horrible des tortures. Personne ne vous plaint, ne vous console. Nul ne cherche à vous soulager et quand le râle des convulsions vous brise et vous tue, vous entendez autour de vous les ironiques éclats de rire des joyeux matelots qui vous lancent en passant leurs quolibets les plus railleurs sur la manière ridicule dont vous comptez vos chemises. Dans ces longs moments de poignantes angoisses, toute joie est impossible, tout sentiment de douleur autre que celui du mal de mer ne peut vous atteindre. Vous êtes mort à tout, et vous remercieriez du fond de l'âme le voisin généreux qui, vous traînant par les pieds, vous jetterait au flot. J'en sais quelque chose, moi, que près de 4 années consécutives de voyage ont trouvé content mes chemises dès que nous allions voir arrière ou que nous naviguions à la bouline. Mais le temps est beau ce matin, la mer calme, légèrement frisée par une brise d'est qui nous pousse en avant. Le Cap Creus, qui sépare le Roussillon de la Catalogne, a été doublé. Nous voici devant Barcelone, dominé par le Montjuï, citadelle protectrice de la ville, mais qui l'écrasera, soyez-en sûr, dans un de ces jours de chaude rébellion. Nous courûmes au large, et les côtes d'Espagne s'affaissèrent et disparurent en nous jetant les derniers rayons des forges de Palafox, qui brillait comme un volcan dans une nuit sombre. Ce furent alors les Baléares, qui s'élevèrent devant nous, avec leurs sommets à prés noirs. Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera et Cabrera, sont des débris osseux que quelques révolutions sous-marines a découpés du continent. Ces îles, jadis célèbres par les habiles frondeurs qui retardèrent si vaillamment les conquêtes des morts, ne nourrissent plus maintenant que des enfants dégénérés. Minorque a un port sûr et commode. Le maréchal de Richelieu s'en est emparé après un beau fait d'armes. Et de toutes les conquêtes de l'illustre roué, celle-ci, à coup sûr, n'est pas la moins noble ni la moins glorieuse. À côté de Minorque est un rocher pelé où, pendant les guerres de l'Empire, les Anglais jetèrent sans secours, presque sans vivres, 12 000 Français faits prisonniers de guerre par suite de la capitulation du général Dupont. Les îles de Ponton, de Portsmouth et Falmouth ont fait le tour du monde, sans respecter même Sainte-Hélène, l'île des grands souvenirs. Là aussi, à Cabrera, un observatoire fut établi pour mesurer un des degrés du méridien à l'époque de la première invasion française en Espagne. La science, qui avait établi ses stations à Valence, à Denia et autres lieux, se vit traquer comme si elle eût voulu servir de signaux aux troupes ennemies. Un homme à qui l'Institut de France venait de confier de si savantes opérations fut arrêté comme espion, traîné de cachot en cachot, jugé, condamné à mort. Échappé des prisons de Palamos, il se sauva en Afrique où il erra longtemps fugitif, gardant toujours auprès de lui les précieux résultats des travaux qui lui avaient été confiés. Il repartit enfin pour sa patrie, après avoir, par un bonheur inouï, passé inaperçu au milieu de la vigilante escadre anglaise qui bloquait tous nos ports et foudroyait nos côtes. Cet homme, encore enfant, avait nom François Arago. À peine les baléares eurent-elles glissé derrière nous, qu'un triste et douloureux spectacle nous appela tous sur le pont. La mort venait de frapper un de nos jeunes et courageux élèves de marine, M. Prat Bernon, parti le cœur plein d'espérance et de joie. Hélas, c'était lui, studieux et brave, qui commençait cette série d'amères douleurs dont nous devions être frappés pendant notre longue campagne. Déjà, se disait-on de toutes parts, et les cœurs se serrèrent, et les yeux se mouillèrent de larmes. Nous n'étions pas encore façonnés aux catastrophes. Un canard est là, de la batterie, sur un cadre ballotté par le roulis et le tangage. Deux hommes vont le visiter, ils le toisent et découpent, à l'aide d'énormes ciseaux, un grand lambeau de vieille toile à voile qu'ils étendent sur les bordages. L'un saisit rudement la tête, l'autre les pieds, et le fardeau tombe avec un bruit sourd sur sa bière. Un troisième s'approche, traînant deux boulets placés dans un petit sac, qu'il lit fortement au pied de celui qui n'est plus. Et voilà mes ouvriers fumant leurs cigares, chiquant leur tabac, cousant la voile roulée autour du corps. C'est fait. Hisse maintenant. Et en deux tours de main et au bruit aigu du sifflet, le cadavre est sur le pont, déposé un instant à côté de la drôme. Silence. L'équipage muet se presse sur l'avant du navire. Une planche, celle sur laquelle le coq découpe les rations des matelots, est placée sur le bastingage, presque tout en dehors, et dominant le flot qui passe. Les fronts se découvrent. L'abbé de Coëlen, notre aumônier, jette un peu de terre sur le corps de notre malheureux ami, et au mot « envoyé », gravement prononcé par M. Lamarche, lieutenant au pied de la corvette, la planche fait la bascule, le cadavre glisse, une trouée se fait à l'eau, un remous l'efface, le navire file. Tout est dit. Dans le sein de nos cités, un homme meurt, ses amis sont là. Des larmes lui disent qu'il a regretté. Ses restes seront déposés dans un lieu où tout ce qui s'intéresse à lui ira jeter des fleurs. Ici, un homme meurt, les flots s'ouvrent, ils se ferment, il ne reste de lui que le souvenir de ses vices ou de ses vertus. Le ciel était toujours bleu et la brise vive et régulière, mais une forte houle, venue de l'avant, nous annonça qu'il y avait déjà lutte violente entre la Méditerranée refoulée et l'Atlantique, qui verse chez sa faible rivale ses régulières marées. Le courant nous drossa, en dépit de toute la toile que nous jetions à l'air, et les écrasantes bordées ne nous faisaient pas gagner une lieue en un jour. En mer surtout, ce n'est pas la distance qui fait l'éloignement. Vous êtes près de moi et je suis loin de vous. Un canot parti de Gibraltar serait dans notre bord en peu d'instants, et voilà 10 jours que nous luttons vainement pour franchir les 5 ou 6 milles qui nous séparent de notre première relâche. Mais le spectacle était beau et mes crayons ne furent pas oisifs. En face, le détroit, à notre gauche, le mot singe, géant africain, noir comme les enfants qui s'agitent autour de sa base. À droite, le rocher aride de Gibraltar, dont les flancs ouverts cachent des centaines de bouches à feu prêtes à vomir la mort sur tous les points de l'horizon. Ces deux colonnes de granit et de lave, qu'on dirait séparées par le courroux des flots atlantiques, figurent admirablement les sphinx ou les lions de bronze placés aux deux bords des larges portes de nos parcs royaux comme pour défendre l'entrée. Singulier spectacle. Ici, sur la pointe méridionale d'Espagne, une ville de guerre capable de résister aux attaques de toutes les escadres coalisées du monde et où l'Angleterre voit flotter son pavillon dominateur, là, à quelques lieues, se tat sur la côte d'Afrique, ce tas que les Anglais convoitent depuis tant d'années et qu'ils n'ont pu arracher aux Espagnols vaincus à Gibraltar, au camp de Saint-Roch et Algésiras. Les hommes de tous les pays n'ont de courage et de patriotisme qu'à certaines heures et à certaines époques. Cependant, la brise devenant plus forte, les courants furent vaincus. Nous avancions toute voile dehors, et en attendant que le vent se maintînt frais et régulier, nous mouillâmes à peu de distance de la ville bâtie au pied et sur les flancs du mont célèbre où Hercule posa ses insolentes colonnes. Protégé contre les tempêtes marines par un môle solide parfaitement entretenu, nous fîmes nos préparatifs pour descendre à terre, après avoir salué le gouverneur de 11 coups de canon, qui nous furent courtoisement rendus coup pour coup. Nous avons un consul à Gibraltar. Il paraît fier de voir flotter le pavillon de son pays sur un navire de guerre, et cela lui rappelle, dit-il, le beau combat de l'amiral Linois, qui, avec des forces inférieures à celles des Anglais, se rendit maître, à peu de distance, du point où nous sommes mouillés, de deux vaisseaux de 74 après un combat où il se couvrit de gloire. Milord Donne était gouverneur de la place. Il nous reçut avec une politesse froide, et il regretta beaucoup d'avoir envoyé son cuisinier à la campagne, car il aurait voulu nous garder à dîner le lendemain. Mais il nous permit, en forme de compensation, une visite dans les batteries de la montagne, et c'était là, certes, agir avec courtoisie, car peu d'étrangers obtiennent la même faveur. Oh, c'est une chose vraiment imposante que l'aspect de ces masses énormes de rochers, au travers desquels la mine s'est ouverte à un large passage, et où on se promène debout aujourd'hui parmi les mille sinuosités, jusqu'au sommet du mont, sans cesse protégé par une casemate naturelle, à l'abri des boulets et des balles. Là, chaque pièce, propre et luisante, est à son embrasure sur son affût solide. Là, chaque quartier reste assis à son poste, sans s'inquiéter de feux croisés dirigés contre le rempart de lave et de granit. Si l'ennemi se rend maître de la ville et cherche à s'y maintenir, les hautes batteries l'en délogent et le mitraillent. Ici, il faut tout avoir ou ne compter sur rien. La reddition même des souterrains inférieurs ne déterminerait pas la prise de la place, car la mine jouerait et vous engloutirez sous mille et mille débris de roc, de bronze et de fer. Ce que vous avez le plus à craindre, ce n'est pas ce que vous voyez. L'angle sous lequel vous vous croyez à l'abri est dentelé de petites embrasures cachées dans les anfractuosités du roc, où le fusil joue le principal rôle, et la mort vous arrive de droite, de gauche et de face, sans que vous sachiez d'où vient le plomb qui vous fait tomber. Les officiers qui nous accompagnaient dans notre visite étaient fiers de notre admiration, et semblaient nous dire que leur pays ne serait jamais déshérité de ce formidable boulevard de la Méditerranée et serait maître, quand ils le voudraient, de tout le commerce du Levant. Ces messieurs avaient oublié Malte et le court séjour qui fit Bonaparte à la glorieuse époque de nos conquêtes républicaines. Nous le leur rappelâmes sans trop de façon. Le rocher de Gibraltar est à 1340 pieds de haut sur une longueur de plus de 6000. La cité qu'il protège est petite, étroite, raboteuse. Peu de maisons se font remarquer par un extérieur propre et coquet. Quelques-unes, cependant, sont d'une assez belle apparence, surtout vers la pointe d'Afrique où l'air est plus libre et où les riches Anglais ont établi leur domicile. Il y a 12 000 âmes à Gibraltar, si l'on peut donner ce nom à ces Espagnols dégénérés qui, pour quelques réaux, traînent le matin d'énormes ballots, s'attellent à de lourdes charrettes et se reposent le reste de la journée pour écraser la vermine qui les dévore. Approchez-vous le soir de ces malheureux, proposez-leur les moyens d'utiliser leur moment, ils riront de vos offres, fumeront paisiblement leurs cigares, se coucheront sur un tas de pierres et s'endormiront en comptant un jour de plus, sans s'embarrasser de celui qui va suivre. Heureux de leur indolence, ils se lèveront le lendemain avant le soleil, mendieront de nouvelles occupations et dès que leur pitance sera gagnée, les promesses les plus brillantes ne les forceront pas à quitter la pierre ou le banc sous lequel ils étalent leur sotte arrogance et leur avilissante paresse. Peut-on nommer habitants de Gibraltar ces juifs cosmopolites qui ne se fixent dans un pays qu'autant qu'il y ait des dupes à dépouiller ou d'infâmes bénéfices à faire? Le nombre en est fort grand ici. On m'assure qu'ils composent les deux tiers de la population, que seuls y sont considérés et traités avec faveur. Pauvre Gibraltar !